Allez, on repart dans cette dernière partie d'émission consacrée à l'économie sociale et solidaire avec Sébastien Pommier, le directeur général du Clos du Nid. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes invité, bien sûr, bien entendu, à l'Antirue tout à l'heure pour parler de l'économie sociale et solidaire, quand on sait l'importance des établissements de santé dans l'ESS. Alors, peut-être qu'on va commencer d'ailleurs par ça, à savoir le poids des établissements de santé dans l'économie sociale et solidaire et le poids des établissements de santé en Lozère, ce département, et peut-être l'avenir, qu'on peut lui donner.
Oui, le secteur médico-social, sanitaire, social et médico-social lausérien est face à un enjeu majeur parce qu'il est, il est le produit d'une histoire importante hein, qui a fait de ce département une terre d'accueil pour les personnes en situation de handicap en particulier. Et tout ça dans ce secteur aujourd'hui qui est en très large mouvement avec en particulier une vraie révolution récente, la loi dite HPST, Hôpital, Patients, Santé, Territoire, dont on avait beaucoup entendu parler dans les médias, mais pas sous cet angle-là. On avait beaucoup vu des médecins manifester dans la rue parce qu'ils allaient perdre un peu le pouvoir dans les hôpitaux. La loi HPST, c'est pas que ça. Et elle a eu, elle a provoqué de nombreuses évolutions, voire révolutions. La première, comme vous l'avez cité tout à l'heure, c'est de parler du concept de santé, c'est-à-dire qu'on a réuni les concepts sanitaires et médico-sociaux d'une part. Et ça, c'était vraiment pas neutre pour nous, parce qu'on est un peu les petits poucets quand même. C'est-à-dire que à l'échelle du département, on a le sentiment que le médico-social et que le handicap, c'est un géant. En fait, on n'est pas grand-chose face à l'hôpital public en termes de budget, en termes de nombre de salariés, etc. Puis la deuxième révolution quand même de cette loi HPST, elle n'est pas neutre non plus, c'est d'avoir un peu modifié le centre de gravité de la gouvernance et de la décision en l'espèce et en la matière, puisque jusqu'alors, les choses se décidaient principalement en département, amende, à travers la DAS, la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales. Aujourd'hui, l'ARS, la Direction générale de l'ARS, est à Montpellier. D'où la nécessité effectivement de nous mobiliser autour de ça. Et la stratégie qu'on a développée, et c'est en lien avec le fameux groupement de coopération sociale et médico-sociale que je vais présenter tout à l'heure dans le cadre de la journée sur l'économie sociale et solidaire. Puisque un des éléments de stratégie autour de ce groupement, c'était de considérer que, puisque le centre de gravité était plus loin, il fallait être plus visible. Et que pour être plus visible, une des idées pas idiotes, c'était d'être un peu plus gros.
D'accord, et justement, avec qui en Lozère ce groupement peut être effectif? Avec qui on peut de qui on peut se rapprocher?
Alors à ce stade, ce groupement réunit 9 des 10 associations lausériennes œuvrant dans le champ du handicap. Ça représente 40 établissements. Donc c'est un groupement plutôt sous l'angle des moyens. C'est-à-dire que les associations ne fusionnent pas dans le cadre de ce groupement, elles gardent leur propre souveraineté, elles continuent à gérer leur propre place, elles restent propriétaires de leur capital, puisque quand même pour un établissement médico-social, avoir l'autorisation, l'habilitation et le financement pour gérer des places, c'est ni plus ni moins qu'une sorte de capital au sens positif du terme, puisqu'il est là pour le coup extrêmement bien utilisé et non réparti entre des actionnaires qui seraient on ne sait où. C'est bien ça le propre de l'économie sociale et solidaire, me semble-t-il. Donc aujourd'hui, ce groupement, c'est 9 des 10 associations lausériennes au vent dans le champ du câble. La dixième, je l'espère, devrait pas tarder à nous réunir, ce qui ferait de ce groupement une communauté de l'ensemble des associations gestionnaires œuvrant dans le champ du handicap dans ce département, ce qui serait une première nationale, ce qui montre là aussi la capacité de ce département à risque d'être trivial, se bouger un peu face à un environnement qui évolue, parce que notre conviction, effectivement, c'est que face à cet environnement qui évolue de vitesse grand V, il faut être encore plus rapide et encore plus cohérent. C'est ce qu'on essaie de faire à travers ce groupement. Donc ce groupement, il mutualise en fait un certain nombre de moyens, il mutualise surtout un certain nombre de réflexions. Puisqu'en fait, ces 9 associations ont les mêmes problématiques, elles accueillent, elles accompagnent des personnes en situation de handicap, elles sont soumises à la même réglementation, aux mêmes obligations, aux mêmes contraintes, en particulier financières. Et l'idée, c'était à travers de ce groupement, tout en conservant leur souveraineté, de poursuivre et de mener des chantiers en commun, si elles le souhaitent. Puisque là aussi, il n'y a pas d'obligation, c'est-à-dire que c'est vraiment une communauté, c'est-à-dire on décide de travailler ensemble un projet. Un dossier, certains vont décider de le travailler tout seul, d'autres vont décider de le travailler à travers le GCSMS, enfin bref, c'est une sorte d'auberge espagnole un peu intelligente, quoi.
Ouais, d'où l'économie sociale et solidaire.
C'est un peu l'idée.
C'est exactement ça. Et au niveau de la représentativité également, je suppose que à ce moment-là, on pourrait peut-être avoir un interlocuteur pour tout ce groupement et on a plus de poids quand on va porter des dossiers au niveau de la préfecture, de l'État et autres.
C'est ça. Juridiquement, en fait, le groupement de coopération, c'est pas une vue de l'esprit de notre part. C'est une forme juridique consacrée et qui a été mis en œuvre récemment d'ailleurs dans le Code de l'action sociale des familles. Et donc elle répond à des règles d'organisation. Dans ces règles d'organisation, il y a une assemblée générale par exemple, et il y a aussi un administrateur qui est l'équivalent du président dans le champ associatif ordinaire. cet administrateur, c'est, enfin, j'ai la lourde tâche d'administrer ce groupement, qui est récent, hein, puisqu'il a été créé, en tout cas dans sa forme actuelle, il y a un an et demi. Et donc, depuis un an et demi, j'ai la charge, effectivement, de l'administrer, de le diriger, en lien étroit, bien sûr, parce qu'on est quand même dans le champ de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire démocratiquement. La particularité de ce groupement, et c'est tout ce qui fait l'intérêt, c'est qu'il réunit, je l'ai dit, 9 des 10 associations lausérennes au vent dans le champ du handicap. Dans ce contexte-là, il y a des grandes associations, je pense en particulier au Claude Uni, que je connais particulièrement bien, qui pèsent 1 000 000 de salariés. Et puis, il y a des petites associations, ou des plus petites associations, qui, elles, vont plutôt peser 40-50 salariés. Au sein du GCSMS, elles ont toutes les deux le même poids. Hein, c'est-à-dire qu'autour de la table de la décision, le Claude Uni ne pèse pas plus que telle ou telle autre association qui serait moins importante. Là aussi, on retrouve un élément fort et un des murs porteurs de l'économie sociale et solidaire.
Voilà. Au-delà de ce groupement, donc, on voit tous les avantages que ça va pouvoir apporter ou que ça apporte déjà, l'évolution du secteur médico-social, comment vous le voyez? Sans parler peut-être des problèmes liés aux ADRR qu'on va évoquer juste après, comment vous voyez l'évolution du médico-social en Lozère qui a depuis toujours une place extrêmement importante au niveau de l'emploi, également de la solidarité?
La question de fond, c'est quelle est l'évolution de nos populations. C'est-à-dire que nous, notre travail, c'est ni plus ni moins que d'accompagner des personnes en situation de fragilité du fait de leur handicap. Et la vraie question, c'est comment est-ce que le handicap évolue? Et de là, effectivement, par ricochet, nous, on évoluera. Donc, le handicap évolue à vitesse grand V, sous l'impulsion de différents éléments, les progrès de la médecine, par exemple. Les velléités et les volontés, les aspirations et les besoins de ces mêmes personnes. Et donc le droit, lui aussi, évolue en ce sens. Et la loi du 11 février 2005, on a parlé de la loi de 2009 tout à l'heure, mais il y a eu une autre révolution récente dans le champ du handicap, c'est la loi du 11 février 2005, qui a posé, et c'est très bien, de nouveaux droits aux personnes en situation de handicap. Et un de ces droits, c'est bien sûr le droit à l'autonomie. Donc nous, on doit s'adapter à l'autonomie et aux besoins et aux aspirations d'autonomie des personnes en situation de handicap. Ça veut dire qu'effectivement, nos organisations vont devoir évoluer. Elles vont devoir évoluer du tout hébergement vers peut-être un peu plus de services, c'est-à-dire que l'autonomie des personnes va nous inviter à leur faire d'autres propositions que de l'hébergement lourd, important, etc., etc. Donc c'est pour ça qu'on s'oriente, et c'est le cas du CLONU actuellement sur la population enfant, de l'hébergement vers des créations de CESAD, ce qu'on appelle des CESAD, c'est-à-dire des services qui vont accompagner, suivre à domicile, et en lien étroit avec l'éducation nationale par exemple. Et la logique va être la même au niveau des adultes d'ailleurs, en tout cas pour le CLONU, je le souhaite. Voilà, donc le handicap évolue, nous on est obligés de se réorganiser. Moi il me semble pour ma part, que c'est ce que je défends dans ce département depuis que j'y suis, c'est que le médico-social lausérien n'est pas forcément en danger, on en entend beaucoup parler, hein. Il n'est pas en danger à trois conditions cumulatives. La première, c'est qu'il s'adapte aux besoins des populations, c'est-à-dire que de plus en plus, il va falloir qu'on soit effectivement le plus auprès des attentes des gens que nous accompagnons et que nous aidons. La deuxième condition, c'est la coopération, c'est-à-dire travailler de plus en plus ensemble. On ne pourra plus rester chacun dans notre coin, dans notre petit territoire, en particulier dans ce département lausérien. Et puis la troisième condition, c'est l'innovation, c'est-à-dire être en capacité, je reviens sur la notion de visibilité que j'évoquais tout à l'heure, être plus visible de Montpellier, c'est être plus gros, je l'ai dit, mais c'est aussi c'est avoir une vraie valeur ajoutée, une plus-value, et je crois que ça passe par l'innovation, et en tout cas pour le Claude Uni, nous avons, au cours des dernières années, engagé de larges innovations avec la création de l'établissement d'accueil temporaire et d'urgence, la création de services d'accompagnement au temps libéré, la création d'Equiforia, dont on a beaucoup entendu parler et qui est, entre autres choses, un petit bébé du Claude Uni.
Voilà, peut-être pour finir un peu notre entretien, un point négatif qui peut freiner l'avancement de ces trois projets, de ces trois objectifs, concerne les zones de revitalisation rurale. Vous avez déjà été attaqué l'an dernier, on a réussi à le sauver de peu. Ça repart cette année. Réexpliquez-nous succinctement vraiment quel est le problème, que veut faire le gouvernement.
Alors, succinctement, la Lozère, qui est considérée comme, à juste titre, me semble-t-il, comme un territoire rural, bénéficie d'une disposition légale et réglementaire qu'on appelle souvent les ZRR, zones de revitalisation rurale. Concrètement, il s'agit de bénéficier pour un certain nombre d'organismes, et en particulier les organismes d'intérêt général, tels que les associations œuvrant dans le champ du handicap ou dans le champ de la personne âgée, de bénéficier d'une exonération de charges patronales. Donc concrètement, nos métiers, nos actions nous coûtent moins cher que dans d'autres départements, parce que nous sommes en territoire rural. L'exonération ZRR, c'est donc une non-dépense. Ce n'est pas une vraie recette, mais c'est une non-dépense, ce qui revient un peu au même. Et ça représente quand même des sommes assez colossales, puisque pour le Clos d'Uny en année pleine, ça représente près de 3 millions d'euros quand même. Donc à l'échelle du département et à l'échelle du GCSMS, ça doit représenter quelque chose comme 7 ou 8 millions d'euros sur une économie générale du dispositif qui, au niveau national, représente 130 millions d'euros. Donc c'est quand même un dispositif important. 130 millions d'euros, c'est une somme à l'intérieur de laquelle la Lozère prend une part importante. Parce que la particularité de la Lozère, c'est que tout le département est considéré comme zone de revitalisation rurale, alors que, par exemple, dans un département comme l'Hérault, seuls les Hauts-Cantons, le canton de l'Audef, par exemple, sont considérés. Donc, effectivement, on a là une niche fiscale, une niche sociale. Aujourd'hui, il n'a échappé à personne que ces niches sont en danger. Alors, on ne va pas débattre de fond sur l'intérêt de remettre en cause les niches fiscales. C'en est une quand même qui est extrêmement utile. Hein, parce qu'effectivement, si on n'avait pas ces aides-là, on serait terriblement en danger.
Oui, l'emploi le serait aussi. Tout un panel qui dépend de vos établissements le serait. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le député de la Lozère, Pierre Morel à l'huissier, doit poser une question à ce sujet au Premier ministre à l'Assemblée, à Jean-Marc Ayrault. Il devrait déposer une proposition de loi qui doit être soutenue par le sénateur de la Lozère, Alain Bertrand. Donc on va voir comment... On va suivre avec attention l'avancée de nos deux parlementaires. Sébastien Pommier, merci beaucoup.
Merci à vous.
Voilà, on finit cette matinale consacrée à l'ESS. Vous pouvez retrouver tout ce beau monde, bien sûr, à l'Antirouille pour cette journée consacrée à l'économie sociale et solidaire. On se quitte avec un petit jingle et Seu Jorge de la chanson brésilienne Marina. Et bien sûr, à midi et demi, n'oubliez pas le mag, trois invités, trois sujets d'actualité. À tout à l'heure.